Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cette paracha, cette semaine, on a un grand programme. Tout d'abord, on rentre dans la paracha qui s'appelle Mishpatim, qu'on va se baser surtout sur ce sujet. Et ensuite, c'est Shabbat, puisqu'on est à la veille du mois de Adar. C'est un mois très spécial, on aura l'occasion de parler. Et on lit une paracha supplémentaire ce Shabbat, la paracha des Shkalim, peut-être on aura le temps de parler. Et comme on a dit, c'est le Shabbat qui précède le début du mois d'Adar, c'est aussi une autre identité. Donc on a ce Shabbat trois identités, la paracha Mishpatim, la paracha supplémentaire Shkalim, et le fait que c'est le Shabbat qui bénit, ça veut dire... Parce que chaque Shabbat bénit la semaine qui vient, et donc ce Shabbat, il bénit le mois, le premier jour du mois, donc le mois qui vient. Donc de ce Shabbat, on commence déjà à sentir l'idée de ce mois spécial qu'on va arriver bientôt à ce mois, que c'est le mois d'Adar. Mais quand même, on va commencer surtout avec la paracha Mishpatim. Cette paracha, elle est très particulière d'ailleurs. C'est très intéressant que même si on a l'impression que la Torah, elle suit, donc chaque paracha, elle vient comme une suite de la paracha de la semaine, de la semaine dernière, ou bien la paracha dernière, mais quand même, on peut dire que chaque paracha, elle est particulière. Il y a quelque chose de très spécial dans ces parachas qu'on ne trouve pas nulle part. Alors si c'est vrai toujours, c'est vrai dans notre paracha Mishpatim. Et parmi les sujets et parmi les choses qu'on peut dire que c'est une paracha unique, c'est que le fait que les lois sociales entre humains se trouvent dans notre paracha. C'est vrai que ce n'est pas une longue paracha, mais elle est très chargée. Et les quelques mots qu'il y a dans cette paracha, dans le Talmud, c'est plusieurs pages. C'est des choses qu'on peut le voir, c'est chacun qui étudie le Talmud, il voit comment on regarde ces petits mots de la Torah avec des loupes. Et donc, ces quelques paroles de la Torah qui sont très concentrées et très limitées, il y a quelques mots pour dire quelque chose. Et donc, dans le Talmud, c'est énormément de pages. Et ensuite, on sait que c'est très profond et très fort, ce n'est pas des mots de ça qu'elle peut tester, voir. La richesse, donc le trésor est devant nos yeux, on peut juste prendre le Talmud de le voir. Donc alors cette paracha, elle est petite, mais en vérité elle est énorme. Il y a des milliers de pages de Talmud, et encore, ça ne s'arrête pas, parce que dans le monde talmudique, dans le monde intellectuel, surtout dans le monde de la Torah, ça se développe encore, on comprend toujours de la profondeur qu'on n'a pas compris jusque-là. Donc alors, cette paracha, elle est une paracha... Pas une longue paracha, mais en même temps très large, si on voit ce qu'il y a entre les mots, est très grande, très riche. Et comme on a dit tout à l'heure, que surtout dans cette paracha, c'est la base de toutes les lois internationales, les lois juives tout d'abord, donc les droits, comment on juge, comment on réagit devant les dommages que l'a créé à l'autre. Et entre les voisins et toute notion sociale se trouve dans cette paracha. Et on sait qu'ensuite le monde a été nourri par notre paracha, parce qu'il y a beaucoup, comme d'ailleurs la loi internationale est basée là sur l'autre, il y a différentes manières de juger, mais en tout cas la Torah elle était très... influencé, donc elle a influencé beaucoup le droit international, même si que souvent ça change, parce que d'ailleurs la Torah, elle n'oblige pas l'humanité de juger comme il est marqué dans la Torah. La Torah, elle oblige, en fait, oblige, elle demande qu'il y aura de justice dans le monde, mais chacun il fasse au mieux. La Torah, elle nous donne à nous, les Juifs, une méthode comment il faut faire, mais s'oblige pas les autres. Les autres, ils doivent faire de la justice, de leur propre justice. Mais l'essentiel, c'est qu'il y aura de la justice dans le monde. Par exemple, si on prend les lois des voleurs, là aussi, il y a beaucoup de détails, mais normalement, un voleur qu'on a trouvé, il doit payer le double. Est-ce que c'est logique? On peut discuter. Il y a certains qui, carrément, qui utilisent ces méthodes anciennes de couper les bras, bien sûr que ce n'est pas notre méthode, mais il y a de différentes manières que l'humanité, ok, ce n'est pas moderne, mais aujourd'hui, comment on juge? Que chacun juge à sa manière, mais en tout cas qu'il fasse le mieux pour que les vols cessent, que les meurtres cessent, que toutes les mauvaises choses cessent, et ça c'est ce qui est important. Mais revenons à notre sujet. La Torah, donc, dans notre paracha, elle nous dit les lois, qui est celui qui a volé, celui qui a tué, celui qui a violé, celui qui a donné à garder, les choses ont été perdues, ou bien l'autre dit non, je t'ai pas donné. Ou... Il y a toutes sortes, comment les lois de partage, les lois de... Beaucoup, beaucoup d'autres choses qui se trouvent, en fait, en vérité, toutes les notions sociales qu'on peut imaginer se trouvent dans notre paracha. Alors, si on va un petit peu plus loin, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets dans la paracha, mais on peut dire que ça, c'est le sujet le plus essentiel de notre paracha. Mais notre paracha, il vient après la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, il y avait les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on trouve deux sortes de lois. Il y a des lois qu'on peut appeler les lois religieuses. Ça veut dire qu'on nous demande de croire en Dieu. En vérité, on ne peut pas demander à quelqu'un de croire en Dieu. Alors on explique que c'est, on nous demande de comprendre. On a la possibilité, donc le devoir, de comprendre, de voir Dieu dans notre vie. C'est un sujet à part. Mais, donc c'est le Maïmonide, peut-être on a parlé de ça la semaine dernière, et c'est comme ça qu'on comprend. La mitzvah, la première mitzvah, le premier commandement de la Torah, c'est savoir qu'il y a un Dieu, donc on précise le mot savoir, parce que la croyance, il y a beaucoup qui les ont, parfois plus, parfois moins, c'est quelque chose qui n'est pas toujours stable. Et donc on a le devoir justement de rendre stable cette foi, mais ça, souvent, c'est par la compréhension. Et on a pas mal de choses à comprendre. Et la Maïmonide, dans son livre, il explique ce qu'il faut faire pour que cette foi soit quelque chose de réel, de clair, de compréhensible. En tout cas, ça, c'est un exemple d'une loi qu'on peut l'appeler une loi religieuse. Je suis religieux, donc je crois. Donc, comme on a dit croire, ça veut dire comprendre. Et ou bien, il y a d'autres choses là-bas qui rentrent dans ce cadre. Et ensuite, il y a d'autres cadres. Dans le même 10 commandements, d'ailleurs, on dit que dans les 10 commandements, il y a deux côtés, parce qu'il y a deux tables de la loi. Le côté droit, c'est plutôt entre Dieu et l'humanité, en fait l'homme. Et le côté gauche, c'est plutôt entre l'homme et l'homme. D'ailleurs, il y a un sujet qu'on se demande comment ça rentre dans la première partie. Et on aurait son père et sa mère, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça rentre dans la première partie entre l'homme et Dieu, même si que normalement, nous, on considère qu'on aurait son père et sa mère, c'est quelque chose entre l'homme et l'homme. Il m'a donné tout, mais il me donnait tout, mes parents, donc il faut que je donne aussi. Il y a d'autres logiques qu'on peut attribuer à cette idée, à cette loi. Mais en tout cas, dans la partie de gauche, des 10 commandements, il y a de ne pas voler. Voler ici, c'est plutôt voler, kidnapper des personnes. Ne pas voler de l'argent, ça marquait ailleurs. En tout cas, ne pas tuer, ou bien d'autres choses qui rentrent dans ce cadre. Donc, alors, on trouve déjà cette partie, mais surtout, on considère que cette paracha et ces lois sont plutôt religieuses. Et lorsqu'on arrive à notre paracha, donc, c'est plutôt social. Dans l'esprit des gens, on a l'impression qu'il y a deux notions. Il y a les gens religieux qui parlent en Dieu, qui rêvent de Dieu, qui prient en Dieu, qui font tel et tel acte religieux, qui prient, etc. Mais il y a les gens qui respectent La nature, il faut comprendre que ça veut dire respecter la nature, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en tout cas, respecter les autres, en tout cas dans le cadre de notre paracha, à ne pas faire du mal aux autres, et comme notre paracha traite les problèmes, que si on a des problèmes entre voisins, entre amis, entre humains, comment il faut les juger? Donc, alors, ça veut dire qu'on peut les dissocier de la religion. Ce n'est pas la religion, ça, on les trouve aussi ailleurs. Il y a beaucoup, on en est dans un monde qui, relativement, il y a des lois dans ce monde, relativement. Pas parfait, loi d'être parfait, mais quand même, le monde, dans chaque pays, en tout cas, dans une majorité des pays, il rêve, il cherche à établir la loi sociale, peut-être pas parce que ils sont dans cet esprit, parce que sinon c'est invivable. Un pays qui n'a pas ces lois, on ne peut pas vivre. Mais en tout cas, donc on peut dire que ces deux parachutes qui parlent de deux sujets qui n'ont pas de rapport, il y a des lois pour les religieux, il y a des lois pour les gens, on peut dire qu'ils ne sont pas religieux, mais ils respectent les autres. Alors, à la limite, ce n'est pas la même chose. Et la Torah n'est pas d'accord avec cette idée. Et c'est pour ça qu'entre les deux parashiyot, il y a un Vav. Vav, c'est une des lettres de l'alphabet, mais elle sert pour des mots, mais elle sert aussi pour des liaisons. C'est comme le mot « et » en français, « ça » et « ça ». Donc, après qu'on a terminé la paracha de la semaine dernière, et là-bas où il est marqué, comme on a dit, entre autres, les 10 commandements, que c'est le sujet quand même essentiel de cette paracha, alors on continue, puisque, en tout cas, selon Rashi qui explique comme ça, parce qu'il y a d'autres visions, que cette paracha, elle vient comme suite, puisque Moshe, il est resté sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Et donc, la Torah, elle dit, eh, voici les lois que tu vas mettre devant eux. Eh, voici, eh, pourquoi le eh? Le eh, ça va nous dire que ça et ça, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas faire les différences entre l'un et l'autre. C'est la même chose, même si que visiblement, jusque-là, on a parlé de choses plutôt religieuses. Et là, on va parler de choses plutôt humanitaires. Et donc, on peut dire que ce n'est pas la même religion, ce n'est pas la même Torah. Alors, la Torah nous dit non, ça et ça, cela se vient du même endroit. Ça veut dire qu'il faut le considérer comme la même religion. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est religieux, qui n'est pas, il ne suit pas les lois de la Torah, donne les notions de respect humain, mais aussi quelqu'un qui se comporte bien au niveau humain, mais il ne respecte pas la Torah, on considère comme quelqu'un, en fait, quelque chose que ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Apparemment, pourquoi? Alors, il y a quelque chose, c'est pour ça que la Torah nous dit, comme ça on explique dans la Chassidut, ces paroles de la Torah, que comment on comprend notre monde? On a un monde. Dans le monde, il y a des règles. On est obligé de mettre des règles parce que, comme on a dit, pour que le monde tourne bien, il faut établir les règles. Heureusement qu'aujourd'hui, le monde cherche les règles, même si on peut bien critiquer le monde en général. On le fait, dans chaque gouvernement, il y a toujours une opposition qui critique. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'homme, il n'est pas parfait de nature, et même si on va dire qu'il est parfait, mais il cherche toujours à se dire qu'il se comporte bien. Parfois, il croit qu'il se comporte bien et il ne remarque pas qu'il y a un problème tant que quelqu'un d'autre, il se met à l'opposition et lui dit « Non, mais c'est pas bon », parce que l'homme, il est proche de lui, il pense toujours que ce qu'il fait, c'est plutôt correct. Donc, on a besoin d'une opposition dans un monde arrangé, dans un monde normal. Parce que, oui, comme on a dit, qu'on ne peut pas être normal si on n'a pas une opposition. Mais, donc, la vision de la Torah est ceci. que Dieu il a créé un monde, mais donc, et ensuite on sait qu'il y a des lois dans ce monde. Donc il a créé le monde et il a donné des lois. Alors, comment qu'on peut comprendre? Est-ce que les lois viennent après la création du monde ou bien les lois viennent avant la création du monde? Ça veut dire que si on va dire que les lois viennent après la création du monde, ça veut dire que Dieu il a créé un monde, donc il a créé des règles. Et ensuite, il nous a dit, moi je connais bien ce monde, donc je connais les règles, et je vous dis, faites ceci, ne faites pas cela. Alors, ça veut dire qu'il y a le monde, il y a ses règles, et c'est lui qui connaît les règles, il nous dit, faites ceci, et ne faites pas cela. Alors, ça veut dire que le monde, c'est les causes des lois. Mais on peut dire le contraire, que non, Dieu, il a un projet. Il aurait pu créer le monde comme il veut. Nous, on a des règles, nous, on a des logiques. Mais c'est lui qui a créé la logique. Et donc, toute logique qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une logique, une fois que Dieu l'a créé, il a créé, que Dieu l'a défini, que Dieu l'a décidé. Alors, si Dieu aurait pu régler les choses autrement, à ce moment-là, la logique aurait été opposée. Alors, c'est le contraire. Tout d'abord, Dieu l'a créé. Alors, c'est des sujets difficiles. Quand on parle de Dieu, l'homme, le rapport, Dieu, il veut un rapport entre lui et l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il y aura un rapport que lui, il demande, eux, il écoute. Bien, c'est un sujet à comprendre. Alors, à ce moment-là, il a créé des règles. Alors, tout d'abord, il a créé les règles et ensuite, il a créé le monde. Selon les règles qu'il veut. Donc, selon ça, les règles ne viennent pas après la création, les règles viennent avant la création. Alors, je sais qu'il faut expliquer ça un petit peu mieux, mais peut-être une autre fois. Mais si on va un petit peu plus loin, alors si on explique, à ce moment-là, il faut dire que on peut expliquer comme ça, peut-être on n'a pas précisé avant. Que dans notre monde, comme on a dit tout à l'heure, il y a des mitzvot humaines, il y a des mitzvot plutôt religieux, mais on peut le voir un petit peu différemment. Il y a des mitzvot, donc des lois qui sont logiques, il y a des lois qui sont pas logiques. Pas logiques, ça veut dire qu'on ne comprend pas, on le fait quand même. Souvent, c'est les lois religieuses que souvent il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a certaines choses qu'on nous dit, ça symbolise telle et telle chose. Mais ça reste pas dans un cadre qu'on peut dire que c'est très très logique. Par contre, les droits sociaux, c'est plutôt logique, comme on aurait son père et sa mère. C'est logique ou c'est pas logique? Alors, malheureusement, c'est vrai que c'est parmi les lois les plus difficiles, parce que ça dépend qu'est-ce que ça veut dire, on aurait son père et sa mère. Selon la Torah, on aurait son père et sa mère, on va à l'extrémité, on perd parfois de notre confort pour honorer son père et sa mère. Et c'est difficile, on le voit que les gens ils ont du mal avec ça, mais c'est quand même, ça rentre dans le cadre logique. C'est mon père, c'est ma mère, il faut que je le respecte, il faut que je donne tout pour eux, etc. Quoique. Mais ça rentre quand même dans le cadre. Il y a des gens qui peuvent l'expliquer bien, il y a des gens qui disent non, mais quand même je vis ma vie, etc. Mais quand même, c'est dans le cadre logique. Alors, pourquoi il y a des lois finalement qui sont logiques? Il y a des lois qui sont moins logiques. On ne comprend pas. Ou bien on comprend à moitié. Ou bien on comprend les symboles, mais on ne peut pas dire que les symboles, c'est vraiment quelque chose qui est très logique. Je comprends ça que je comprends, de la même façon que je comprends qu'il ne faut pas tuer. Donc, alors, on partage la Torah en trois, mais on va parler plutôt de deux. Il y a chukim et mishpatim, des mitzvot et des lois plutôt accessibles, logiques, et des lois qu'on le fait. Ça symbolise ou ça symbolise pas certaines choses, mais on le fait parce que Dieu nous a demandé. Alors la chassidoute explique la raison pourquoi il y a certaines mitzvot comme ça et certaines mitzvot comme ça. Donc on nous explique que, comme on a dit tout à l'heure, que l'origine c'est la loi. Et ensuite arrive le monde. Donc, la différence, c'est qu'il y a certaines, une fois que Dieu il a créé le monde, il y a certaines lois qui nous a approchés à nous tellement que c'est devenu accessible et logique. Il y a certaines choses qui restent dans le monde qui n'est pas accessible, donc on ne comprend pas. Comme si, je ne sais pas quel exemple on peut donner, il y a une nourriture qui, à l'origine, elle n'est pas bonne. Et je le rends bonne, comme de différentes choses dans la cuisson, parce que si je sais bien cuire, alors je le rends bien. Mais il y a des choses que... il y a des choses que je n'arrive pas à le rendre bien. Donc, ça reste comme son origine. Donc, ça aussi, on peut donner cette image que la Torah, il y a certaines choses qui arrivaient à nous tellement proches que se rentraient dans notre monde à tel point que même dans notre logique et dans notre monde, c'est logique. Et il y a des choses qu'ils ont resté encore non logiques parce qu'ils ont resté loin de nous. Parce que comme on a dit, toutes les mitzvot, c'est parce que Dieu il a choisi, pas parce que c'est logique. Seulement qu'il y a certaines choses qui sont devenues logiques. Donc Dieu il nous a avancé dans notre monde, il a descendu dans notre monde, il a baissé vers notre monde à tel point que c'est logique. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore logiques. À partir de là, on peut comprendre que les mitzvot, les lois de la Torah sont des mêmes origines. Ils sont tous des lois religieuses. Même ne pas voler, ne pas tuer, c'est une loi... C'est une loi religieuse. Seulement qu'il y a certaines choses qui sont proches de nous. Ils sont arrivés à notre monde à tel point qu'on peut le comprendre et les gens comprennent. Et il y a des choses qui restent loin parce que c'est loin de nous. Donc on le fait parce qu'il faut, parce qu'on nous a demandé, parce que Dieu nous a demandé, parce que la Torah nous a demandé, mais pas parce qu'on comprend. Mais finalement, c'est la même origine, c'est la même chose. Et si on va, alors c'est pour ça qu'il y a un vav, comme on a dit tout à l'heure, un vav c'est une lettre qui fait la liaison entre les deux parashiot pour nous dire que de même, le premier, ça vient de Sinaï, et la même aussi, celle-ci, qu'on parle de choses que les autres, ils vont vous dire, on n'a pas besoin de cette Torah, c'est la logique qui nous dit ça. Ça aussi, pour nous, ça vient de Sinaï. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui, dans le monde juif, qui ne vole pas, qui ne tue pas, il ne le fait pas parce qu'on est un bon citoyen, ce qui est vrai aussi, mais parce que c'est un devoir religieux. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour d'autres choses, parce que lorsque on est un bon citoyen, parfois on peut trouver des excuses pour dire « oui, je suis un bon citoyen, normalement je ne devrais pas faire, mais dans ce cas c'est différent, donc je me permets à faire ». Mais lorsque c'est une loi religieuse, ça me limite encore plus, même si que là aussi, toujours, on peut trouver toujours des excuses et dire oui, dans notre cas, c'est différent, etc. Mais quand même, le fait même que je sais que Dieu m'a interdit de voler, Dieu m'a interdit de tuer, alors ça m'encadre encore plus. Mais si on revient à notre sujet, on va aller plus loin, c'est que selon cette vision, le monde, il y a des choses que le monde n'est pas encore prêt à accepter, donc ça reste non logique. Il y a des choses que le monde déjà, il est déjà prêt à accepter, et donc ça devient quelque chose de logique. Ça veut dire que quelque part on considère qu'il y a des paroles qui restent, il y a des logiques, il y a des lois qui restent loin de nous, donc il y a la divinité qui n'est pas pénétrée dans le monde. Alors à ce moment-là, ça, je le fais, parce que Dieu il demande. Mais je ne comprends pas, mais c'est loin de moi. Il y a d'autres sujets de la divinité que ça arrivait proche de notre monde à tel point que je le comprends. Et c'est ça la différence entre des mitzvot logiques et des mitzvot non logiques. Des lois logiques et des lois non logiques. Et là, le rabbi il soulève un problème, le rabbi de Lubavitch, il y a déjà quelques décennies, de ça qui nous a... surtout ces dernières années, il a beaucoup parlé du temps messianique et le monde avance le temps messianique. Non seulement qu'il a parlé, il a prouvé, il a montré comment on comprend, comment il faut comprendre le monde autour de nous. Parce qu'on a un monde autour de nous. Il y a des événements dans ce monde et il y a ceux qui comprennent d'une manière et ceux qui comprennent d'une autre manière, comme l'exception, pardon, comme l'expression. Qui ont dit qu'il y a ceux qui voient la moitié vers vide et il y a ceux qui voient la moitié vers rempli. Mais pas seulement. Dans notre monde, on voit le même monde, on voit les mêmes événements. Il y a ceux qui le voient d'une façon très, très positive. Il y a des gens qui le voient d'une façon très, très négative. Et dans tous les domaines, il y a des gens que quand il y a un problème, c'est une catastrophe. Et pour l'autre, le problème, c'est un avantage pour avancer plus. Donc nous, on suit l'esprit du rabbi qui nous a expliqué que notre monde, à nous, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a, il faut regarder les côtés positifs. Et à ce moment-là, on voit comment le monde il avance vers quelque chose de positif, malgré tout ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, de là, on peut apprendre que c'est malgré tout ce qui se passe maintenant. Donc, alors, dans cette paracha, il y a quelques décennies, donc c'était l'année 92 quand même, c'est très loin. Et il a dit, et il y avait un événement très important dans les Nations Unies, et le rabbi expliquait que les Nations Unies essayent de limiter, ils ont signé entre l'Amérique et la Russie, et le fait qu'on signe sur les notions de diminuer les armes, c'est un signe messianique, parce que sur le temps messianique, il est marqué qu'on va utiliser les armes pour quelque chose de positif, pour l'agricole, etc. Ça, c'est ce que le rabbi nous a expliqué à l'époque, et le temps est passé. Et on a vu que le monde a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on vit une vie pas très agréable dans ce qui se passe dans le monde. On est dans une période incertaine, on ne sait pas comment ça va évoluer. Il y a des visions très négatives. Et pourtant, nous, en tant que chassidim, donc le fidèle, pas le mot fidèle, c'est pas ça. En tout cas, en tant que disciple de Rabbi, on regarde autrement. On regarde le monde. Et aujourd'hui, le monde, il avance, même le moment où on a l'impression de reculer. Alors, il faut expliquer ce que ça, chacun, il doit regarder de cette manière, il va voir pas mal de choses positives. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que la logique, il y a de logique dans le monde. Et pourtant, le monde, il a pas forcément suivi cette logique, n'est pas tué. C'est quelque chose de très, très logique, très humain. Et pourtant, le monde, il n'est pas fonctionné comme ça. Et il y a des pays qui expliquaient, jusqu'à aujourd'hui, on le voit, il y a chaque pays qui fait des crimes, ils ont des explications très, soi-disant, logiques. Oui, on le fait pour le bien du monde, ça suffit de regarder à droite et à gauche. Donc, alors, quelque part, c'est quelque chose... qu'on a l'impression, dans toutes les générations, il y avait toujours des guerres. Et seulement, ce qui a changé, je pense qu'on peut expliquer comme ça, que ce qui a changé, même si certains vont dire que ce n'est pas un changement radical, moi je pense que si, et ce qui a changé, qu'à l'époque, le monde ne cherchait pas la paix. On a cherché à gagner, et c'est tout. On n'a pas cherché la paix, donné les lois, il n'y avait pas cette notion. Aujourd'hui, même les pays, les pires pays, officiellement, ils déclarent qu'ils veulent la paix. Le problème, c'est que les autres... En tout cas, c'est un sujet qu'on peut discuter, certains vont être d'accord, certains non, mais en tout cas, notre vision, c'est comme ça que, malgré tout, le monde, il avance vers un monde de paix. Alors là aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut expliquer, mais on n'a pas le temps pour rentrer dans ce cadre. Mais ça c'est clair que nous, chacun parmi nous, doit faire tout ce qu'il peut, que le monde il avance vers ce monde de paix. Comme on a dit tout à l'heure, tous les pays du monde, en fait, je ne sais pas si tous les pays du monde, mais non. Il y a quand même une partie des pays du monde qui ne disent pas, mais il y a une majorité des pays du monde qui déclarent. Et c'est ça qui est assez nouveau. On est pour la paix, on cherche la paix. Encore une fois, tel pays va dire c'est qu'il n'y a pas la paix parce que l'autre pays, mon voisin, il a fait telle et telle chose, donc on doit réagir. Mais dans l'esprit des gens, dans en tout cas Je pense que dans la mort, je te demande aujourd'hui, contrairement à ce qu'était il y a très longtemps, c'était on ne veut pas la guerre, mais on n'a pas le choix. Mais en tout cas, le monde cherche quand même la paix. En tout cas, c'est un sujet de discussion depuis très longtemps. Mais en tout cas, alors, si on résume un petit peu, on termine notre émission, c'est ça l'esprit, c'est qu'il y a des mitzvot logiques, il y a des mitzvot qui, pour le moment, ne sont pas encore logiques. Et c'est l'idée, justement, des proximités de la divinité avec notre monde. Il y a certaines approches, et dans certains domaines que la divinité est proche de nous, c'est pour ça que c'est devenu logique. Et c'est pour ça que ce qui n'était pas logique à l'époque devient de plus en plus logique. Et ça, c'est parmi les signes de Mashiach, que le monde soit en paix. En tout cas, malgré ce sujet qu'on peut discuter, comme on a dit tout à l'heure, c'est un sujet très compliqué, comment comprendre le monde autour de nous, et pourtant on voit beaucoup de problèmes, mais notre vision, la vision qui est basée sur celle du Rabbi de Lubavitch, le prophète de notre génération, c'est que aujourd'hui le monde avance vers quelque chose de positif, et chacun doit chercher à faire des biens autour de lui, et amener notre monde vers un monde de positif, vers un monde de bien. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.